Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Aujourd'hui, une émission spéciale dans les poètes. Vous savez qu'il y a deux émissions particulières. La première, c'est Carte Blanche A. Et la deuxième, c'est le Tempo Poème. Alors, qu'est-ce que le Tempo Poème? Nous allons, avec Svantrum, tout à l'heure, il va nous expliquer ce qu'est le Tempo Poème. Sachez qu'il s'agit de la relation du spectacle qui va avoir lieu chez nous, à la Maison de l'Occitanie, 11 rue Malcousinat, à Toulouse, le jeudi 26 janvier à 18h30. L'entrée est gratuite et vous serez tous les bienvenus. Alors, ce Tempo Poème, nous allons écouter d'abord Svant qui va nous expliquer la philosophie du Tempo Poème.
Eh bien, bonjour et bienvenue à la 12e rencontre de Tempo Poème. Comme le savent maintenant ceux qui suivent notre cycle de présentation de poètes, c'est depuis fin 2018 que Christian Saint-Paul, Francis Pournon et un peu plus tard moi-même, Svantström, vous invitons à faire la connaissance de poètes contemporains à la Maison d'Occitanie à Toulouse. Avec ces rencontres bimestrielles, nous entendons atténuer la rareté de l'offre des médias et contribuer à mettre en valeur les poètes et la poésie sous leurs multiples aspects de sincérité, de conscience aiguisée et d'exigence, parfois aussi d'ailleurs de résistance ou de révolte. Nous nous distançons ainsi des mots de Czesław Miłosz qui a dit que si la poésie ne traite ni de sujets politiques ni de sujets historiques. On peut en effet dire au sujet de la poésie tout ce qu'on veut. Et on est libre aussi de retenir ce que l'on veut. Ainsi, le constat de Victor Hugo est plus proche de notre démarche, à savoir tout est sujet, tout relève de l'art, tout a droit de cité en poésie. C'est grâce à la bienveillance de la Convergencio Occitano que l'événement a lieu à l'Hostal, donc la Maison d'Occitanie, ce qui est une manière de rappeler ce que la poésie européenne doit aux troubadours et aussi la place que tient Toulouse dans la poésie mondiale depuis le début du deuxième millénaire. Aujourd'hui, nous ouvrons la série de l'année avec Béatrice Bouffil, qui sera accompagnée par la voix de la comédienne Anne Rebeschini. Christian Saint-Paul nous dira tout de suite qui est la poète Brigitte Bouffil. Cette émission en direct de Tempo Poème est enregistrée et sera diffusée en direct le 26 janvier à 20h, donc le soir même de la présentation publique à l'Hostal d'Occitanio. L'enregistrement sera accessible ensuite de façon pérenne sur le site www.lespoètes.site sous la rubrique pour écouter les émissions. Merci de votre attention et bonne écoute.
Oui, Béatrice Bouffil, c'est un personnage qui fait mentir les idées reçues sur la poésie. On voit le poète comme quelque chose, quelqu'un de déterré, toujours dans ses nuages, qui est un rêveur, un peu inconditionnel, et qui n'a pas les pieds sur terre, et qui a de la réalité une vision tout à fait fantasmagorique. C'est ainsi que on voit généralement le poète dans les idées reçues. Je me souviens d'avoir, lors d'un concours administratif, être interrogé sur la poésie, à ma grande stupéfaction. Et alors j'avais répondu, vous savez, les gens, ils ont une idée tellement vague de la poésie qu'ils prennent ce vague pour la poésie elle-même. Et je crois que le jury n'avait pas tellement apprécié cet humour, je me suis rattrapé après. Mais Béatrice Bouffil est celle qui va tordre le cou à cela, parce que elle est ancrée dans le réel, d'une façon magistrale, et avec beaucoup de succès. Alors, elle est Béatrice Bouffil, elle est poète, et elle dit, c'est une forme d'action. l'action dans la poésie, parce que malgré tout, la création poétique est une action, mais une action dans la vie civile. Et quelle action ! Après des études à l'école de commerce de Toulouse, elle devient chef d'entreprise. C'est une chef d'entreprise qui est fondatrice d'une grosse agence, l'agence TAO, une agence de communication. Elle préside le Capitolium. Donc là, avec ces messieurs, je suppose, qui sont aussi les chefs d'entreprise et qui ont élu une présidente, elle est membre du Cercle Doc. Et figurez-vous qu'elle est même experte auprès des entreprises. Alors, sur le thème de poésie et management. Voilà, extraordinaire, hein, poésie et management. Voilà, alors là, vraiment, on est loin du poète qui est détaché de la société et de la vie civile. Elle y est en plein, elle y participe avec brio. Et, indépendamment de cela, je dirais même, peut-être d'une façon intrinsèque, à cette volonté d'action, volonté de réussir dans la communication, elle développe donc une œuvre poétique. Alors cette œuvre poétique, aujourd'hui, dans ce tempo poème, il va être essentiellement centré sur un livre merveilleux, qui s'appelle « Obstiné à la vie, chassé du paradis », avec le peintre Joan Jordà, c'est aux des éditions de la Sibylle, et ce livre il a obtenu le prix en 2016, le prix des gourmets de lettres, hein, prix de poésie des gourmets de lettres, quel prix est sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Voilà, et nous avons d'ailleurs un représentant des gourmets de lettres avec nous, puisque Svante fait partie donc de cette association lettrée. Alors, Obstiné à la vie, chassé du paradis, c'est le fruit d'une alliance entre deux artistes, qui sont bien sûr Béatrice Bouffil et le regretté Joan Jordà, que nous avons fréquenté, beaucoup aimé. Donc le peintre et le poète, qui vont s'accorder au même rythme. Ce peintre, le peintre catalan, Joan Jordà, qui est un républicain espagnol, hein, il est arrivé en France avec sa famille en 1929, il fait partie de la retirada, il a passé la frontière donc en 1939, et il a choisi d'accompagner donc ces textes de Béatrice Bouffil. Et ce livre, Obstiné à la vie, chassé du paradis, il est issu d'un petit carnet, ces fameux petits carnets que l'on aura peut-être le plaisir de voir bientôt au château de l'Aréole, qui est une éminence culturelle du conseil départemental de la Haute-Garonne, pour une exposition qui aura lieu cet été. Nous en reparlerons, mais c'est très important d'aller voir cette exposition. Je pense que vous verrez donc ces petits carnets dans lesquels Joan Jordà peignait les motifs et les textes que Béatrice Bouffil lui ont inspirés. Et c'est en résonance poétique donc que les deux voix et les deux gestes se sont accordés. Leur propos, c'est de témoigner d'un monde, mais là aussi, on va retrouver ce sens aigu de la réalité. Sens aigu de la réalité qu'ont les artistes, toujours. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de prophétique dans cette vision de la réalité, tant chez Joan Jordà que chez Béatrice Bouffil, puisque on va retrouver la réalité avec ce qu'elle comporte également de violence. Et Joan Jordà, qui est l'enfant de la guerre, et la pire des guerres, hein, la guerre civile espagnole, qui est la pire des choses, lui, cette violence, eh bien, il l'a vécue, et il va la surmonter, mais également la transgresser, et la transcender, grâce à l'art. La même chose pour Béatrice Bouffil, où elle va parler de l'être humain qui résiste avec lucidité, qu'il soit héritier de son histoire ou porteur de son imaginaire. Voilà, on va retrouver ces rivages de la Méditerranée, le dernier texte sur la Méditerranée, avec une illustration de Joan Jordà, et qui est un petit peu en détachement des illustrations précédentes, puisque elles sont, ces illustrations des dernières pages sont des illustrations d'une grande luminosité, où on voit la lumière, où on voit tout l'espoir, où on voit tout l'amour de la vie qu'avait également Joan Jordà. Donc des rivages à Méditerranée et de ses mythes, ou de celui de l'amour. Hein, les artistes Joan Jordà et Béatrice Bouffil nous font voyager à la rencontre donc de leurs univers singuliers. Obstiné à la vie, chassé du paradis, c'est un livre qui a 76 pages. Il a été achevé d'imprimer à Toulouse, ce qui est bien aussi. Et c'est un livre, donc, des éditions de La Sibylle. Voilà. Pour, alors, évidemment, je vous recommande ce livre que vous pourrez vous procurer, bien entendu, dans les bonnes librairies, mais également le jeudi 26 janvier à la Maison de l'Occitanie. Vous verrez également des œuvres originales, peut-être, ou des reproductions de Joan Jordà. Voilà.
Merci Christian de cette présentation qui m'honore et m'intimide en même temps, car il est toujours difficile de se représenter en tant que poète par rapport justement à ce réel que nous fréquentons de si près et parfois de trop près. Il est toujours difficile de se faire une idée de soi-même, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, je crois, les poètes. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de transmettre des messages, et pour notre part, Joan comme moi, des messages qui relatent la dureté de vivre, mais emportent avec eux toujours un espoir chevillé au corps, le goût profond de la joie, d'une certaine forme d'humour, mais ça c'est plus pour Joan que pour moi, qui nous a toujours amusés avec quelques-uns des dessins qu'il faisait. Et c'est donc avec grand honneur et grand plaisir que je présenterai ce travail conjoint de Joan et moi, jeudi donc, 26. Je voulais citer, avant de parler du contenu, ce cher Joan, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Il dit « La culture est une arme chargée d'amour et d'ingéniosité contre la barbarie et l'obscurantisme. » Ah, aussi, je voulais le citer sur autre chose, à une interview qui était menée par Pierre Nouillant, que nous connaissons tous ici, et qui lui pose la question suivante « Lorsqu'on te rencontre, on est frappé par ton calme et ton silence. » Pourtant, ton œuvre est pleine de bruit et de violence, bouillonnante, autant dans les couleurs que dans les formes. Et Joan de répondre, j'ai l'air calme, c'est vrai, mais je suis intérieurement très révoltée. Et ce que je ne peux exprimer physiquement, je l'exprime dans ma peinture. C'est en elle qu'est ma seule force. Cette indignation, cette révolte permanente que je ressens vis-à-vis du monde, elle me permet de l'exprimer. J'espère qu'elle fait souhaiter un monde meilleur. C'est mon utopie. Mais quand je peins, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'abord que la peinture soit belle, quelle que soit la chose représentée. Cette beauté n'est pas, bien sûr, canonique au sens strict, mais il suffit d'être face à une toile de Joan pour en comprendre toute la puissance. Et il suffisait d'être assis à sa table de travail dans la cuisine, quand nous avons travaillé à ce recueil tous les deux, pour partager cette émotion retenue, avec grande dignité de sa part, un homme d'une grande dignité, pour partager cette émotion retenue de l'amour de la vie dont je parlais il y a quelques secondes. Je voudrais commencer cette lecture par un texte qui est celui qui a donné le titre à notre recueil et qui a été écrit vraiment pour Joan face à une de ses toiles, alors que résonnaient en moi les images tous ces tableaux où nous voyons Adam et Ève chassés du paradis, par exemple à la Renaissance et à la chapelle Brancacci par Masaccio, qui est un peintre, où on montre tout ce qu'est le drame de l'histoire de notre humanité. Jorda, nous les avons chassés de notre paradis, les enfants, la lumière, et nos amours larvés dans le ruisseau du temps. Le rouge est apparu derrière le talus. Le soldat a laissé notre corps se cerner d'un lourd reproche. Nous avons beau plonger nos mains dans le néant, nous avons beau hurler, le silence nous tord la bouche grande ouverte. Dans les entrailles plaies de nos rêves meurtris, gît un aveuglement aux tenailles grisâtres. Dans la nuit déchirante est appelée la vie, mais elle ne répond pas et va de mal en pis. Un trait noir souffle un cri sur nos résignations. Il faut que nos mains pendent sur nos sexes déserts. Il fait si froid dedans et c'est si long l'hiver, les jambes écartelées de ne rien posséder. Notre peau est saignante des larmes du printemps. La langue est avalée et notre queue de bête. Les chiens aux dents de lune hurlent aux amas de chair et aux os déboîtés carmin de confusion. Nous n'en finissons pas de naître et de renaître. Quand nous voulons mourir, plus nous voulons mourir, vivre, condamnation. Je pourrais également vous lire un texte écrit sur le catalogue de l'exposition en avant-première, cette fameuse exposition dont Christian Saint-Paul nous parlait à l'instant, à savoir une rétrospective de Joan Jorda au château de la Réole au mois de juillet. Nous avons écrit l'un et l'autre et d'autres encore des textes à propos de Joan. Celui-ci est un texte qui n'est pas forcément très joyeux, mais il ressemble aussi à une partie de sa peinture et surtout de sa vie qui a été jalonnée à la fois de drame et de résilience, comme on dit aujourd'hui. Le texte s'appelle « Joan l'écorché ». Ta peau de parchemin, lui de larmes noircies, de crocs de chien limés, de peines incendiées, et ta cendre couvre mon front d'un impossible repentir. T'avons-nous suffisamment aimé? Avons-nous tendu les mains au creux de ton obscurité? Je t'ai vu épuisé de vie, de lente agonie de la vie. Tu t'es ouvert en deux. Les cerneaux de tes toiles repoussent le destin, mais sa putréfaction menace jusqu'aux chairs, l'os purulent de sang, le sang des morts pour rien. L'ignominie sadique, l'indignité cynique de tous les assassins. Tu nous as déboîtés. Enfant, aux pieds lancés de rage dans ces cubes, qui sait les pyramides pour toujours effondrer. Face éclatée de rouge, feu et froid, bleu et noir, froid, réveil, réchauffé. Et l'orgueil du plus haut. L'élation attendue aspire tes humeurs vers une bouche immense, aux dents de gouttes et plaies. Tu es mort depuis si longtemps que tu en ris. Et je ne sais quoi dire, sauf à lire tes yeux avalanchés d'images, gelés dans le chaos, couleur persécution et cristaux de tempête, qui est venu amasser le monde à tes pieds. Le scalp de ton pinceau pense les écorcher. Par toi sommes pensées, et ton œuvre s'allonge à l'horizon muet de tous les exilés. Ton nom venu de loin, de descente de croix, ton nom, Joan Jorda. Anne, tu veux lire hein, le premier texte qui te conviendrait?
Alors, bonjour à tous. Je vais lire, attends un peu.
D'accord.
Il faudrait que je parle des pierres, de l'absence et des pierres, de l'œil cristal, du froid dans le bleu de l'azur, de la violence née d'une journée banale, quelque part. C'est vers l'est. Vers l'est, c'est forcément repoussé par l'ailleurs, obèse et menaçant. Cadavres dans les champs, en sachets, rangs d'oignons et camphres et en gants. Il faudrait ramasser le silex dans la plaine et voir à l'étincelle cette hallucination. La vie est resplendissante. Attends un peu. Il faudrait croire en Dieu. J'y crois, et forcément. Sa caresse est extase, et puis tout disparaît. Le mot lui a succédé, tranchant, décapité, et sa couronne gît dans un bourbier de sang. Attends un peu. Le monde seul en flamme et qui brûle en dedans? L'avons-nous à ce point de si longtemps quitté? Nous ressentons si peu son ardente matière, si peu les hurlements, ou soudain à hurler, puis oubli, forcément. Il faudrait s'arrêter de vivre divisé, un œil sur le charnier et l'autre sur la terre, fossoyeurs et gisants, cousettes et poupées, seulement patienter que la vie nous déprenne, hors des soirées oranges et des suaves étés. Attends un peu. Le corps est gauchissant de la tumeur du monde, les jardins sont spoliés, mais l'amour abrasif s'installe une seconde. Il faudrait que je parle de son éternité. Attends un peu. Attends.
Ubiquité. Je connais la rondeur, le calme, le silence, l'alignement parfait du corps contre l'esprit, cette immobilité qui va de soi à soi. L'instant est d'équilibre, de juste perfection. Être debout, muet, bras ouverts, cœur ballant à la pose. Aimer cette torpeur qui n'est jamais de mort. Je suis au bout de la jetée. Le fracas de la mer colmate tous mes pores. Je suis iode, marin, cormoran, étourdi, piquant dans le néant. Cependant plus humaine qu'au plus intense étal de mon humanité. Plus vive qu'en l'amour lorsque je suis éprise, torsionnaire échancrant l'étole du réel. Me voici, épuisée sur le chemin de ronde, les mains à plat contre la pierre humide. Je suis Roland et Ganelon, le corps hurlant au corps meurtri, mon écu frappé d'or de mille pierreries, tête fendue jusqu'aux dents de devant. Pourtant plus douce que fleur cueillie par mon amant, fluide de la légèreté de la prime violence, quand parvenu auprès de mes premiers instants, je reconnais la vie. Attendez-moi encore un moment, je vous prie. Attendez de ma voix qu'elle chante aux coryphées, faite pour partager l'amour et pas la haine. Je suis pour un instant Antigone et Ismène, et les plis de ma robe atteignent le palais, un palais où, perdu, je me sens retrouvée plus que dans le présent. Je suis de la caverne aux rumeurs enchantées, aux ombres des cyclopes, aux girouettes de fer tintant dans l'inconnu d'un crépuscule alpin. La vallée, déjà bleue, arpente mon domaine et se couche en mon sein voluptueux, liquide, tout un monde achronique dont je connais le temps plus libre que jamais. Depuis l'abri, j'entends Cyrano dévoyer l'alexandrin des rois et le long galoubé de ses meneurs de chèvres accusant la Dordogne et les rêves enfantins. Je suis plus pacifique, épée ou sabre au rein, que l'âme la plus calme. Dans les mains, la pensée d'un seul geste, mourir, qu'enfin soit net brisé le harnais à mon cou de la dure espérance. Mes peuplades antiques et mes chansons de gestes, la clameur des poètes, le cri des revenants, la musique italienne et les lettres classiques, un paradis fémien où les collines en mots sont dévalées en hâte et rebroussées chemin. Un lieu où me trouver et à peine approcher me sentir disparaître. Marchant du bout des pieds sur les ronces et les blés, avançant dans la nuit, renonçant à l'amour puis m'y abreuvant d'un coup, le geste cavalier. Chaque pas avancé est un pas de géant dans un monde de nains. Il faut ainsi combler les ravines où se noient les excusés du verbe et suivre sans savoir la partition écrite par milliers avant soi, l'œil caressant la phrase et le corps animé d'une cadence intime, être accouché du mot et lui faire un enfant. Puis un autre encore, plongé dans le génome de la langue incarnée, extraire l'inconnu et le reféconder. Ne jamais renoncer à la reproduction, haïr comme soi-même toute stérilité, préférer le vertige au faible mouvement, puis arrêter le temps et fixer son regard au fond de la mémoire où nagent en silence des hippocampes ailés.
Tu veux lire Logos ou...
Oui.
Oui.
J'y vais ?
Oui.
Bon. Logos. Il y a un pan d'azur au-dessus de nos têtes qui reste dévoilé. Lieu du crépitement intime de l'espoir où les mots inlassables viennent à demeurer. Bouquet de fleurs sauvages, d'épices luxuriantes, de frissons des ruisseaux. Alignement parfait des statues de l'antique, fixant de leurs yeux vides le cœur de la psyché. Goutte d'eau gélifiée à l'ombre de la grotte, arabesque des lames à l'horizon cendré, cavalcade éblouie de Pégase ailée à la robe alezane et au parfum musqué, émeraude forêt où débute l'humain à la peau scarifiée, rouge pomme des mains, au corps bombé et lisse de l'être végétal, de l'homme appareillé au monde minéral, de la vie gouléante au cascadant soleil. Promenade alanguie, le long des fleuves gris à l'étiage puissant. Débordement d'acier de ce pouvoir tranchant, des syllabes allongées le long de nos sépulcres. Ampes incandescentes des L et des B, bornant à nos palais le mot de liberté, le T, cognant aux dents comme un muscle arraché, une douleur constante. Renaissance aquatique du souffle des marées, du vertige d'aimer, des labiales coulantes, des doux marmonnements maternels oubliés qui viennent chatouiller la langue malgré soi. La tétée des voyelles absorbée d'un seul trait, la portée émolliante d'un H aspiré. Comme un soulèvement du torse à bout de souffle, vers la vie élancée jusqu'au dernier moment. Apparition tactile des bourgeons sur la branche, les onomatopées, de petits bruits d'oiseaux, de rues, de cœurs ailés, de fraîcheurs attenantes, d'insaisissables objets. Formation délirante des langues de pays, des rauques du désert, des chants adriatiques, des chuintements de steppes, d'un mot aussi bridé que les yeux qu'il invente, ou aussi ruisselant que la soif le voudrait. il y a ce pan de ciel ouvert à volonté qu'il suffit d'embrasser pour ressurgir intact du fond de nos pensées, où l'étroit s'amoncelle sous le joug de l'instant. Un accord des nuages et de la déferlante de nos rêves accueillis au sein de l'infini, la verticalité, langue du mouvement.
Je vais lire l'horreur siècle dernier. Non,
non. Peut-être on peut faire...
Est-ce que tu veux lire Élégiaque?
À nos regards croisés.
À nos regards croisés, d'accord. À nos regards croisés, aux cigognes perchées, Andalusia sud, arithmétique obscure au bout d'un escalier, à compter les degrés qui vont nous rapprocher, aux volets repliés dans la chaleur du jour, à la porte fermée, close contre l'amour, aux fumées de chair blanche et de sueur mêlée, à nos demi-sourires offerts pour une nuit, et la chaude présence, le bruissement de l'autre, le plissement des yeux, le percher de l'envie auprès de l'accoudoir. À tant de mains frôlées, dirigées vers l'oubli, à l'os rond du poignet posé contre la table, au pivot du stylo appliqué vaillamment sur le papier bleui. À trop de mots d'amour biffés, exaspérés de n'être pas celui qui viendra nous chercher. À la rumeur d'en bas, du bonheur animé des pires intentions, au vacarme doré des vignerons le soir au sortir des vendanges, au chant des oliviers, à la douceur des hommes, peau de perles argentée approchée de nos dents, et à l'horreur du monde qui nous creuse et nous ronge, appuie les mains fermées contre les torses nus jusqu'au sang, épousés par le goût du malheur. À notre étrangeté, à nos mille visages, à nos joies mutilées, au purpurin éclat du soleil de l'aimé. Andalusia, anda.
Résolution poétique. Que ma poésie chante le métal et la croix, le marécage obscur et la déflagration, les gravats amassés contre les barricades, les mâchoires armées, et la délectation du point aveugle où meurt le désir sacrifié. Que ma poésie soit l'auvent et la tonnelle, le parfum des glycines, celui des églantiers, la tiédeur sur la peau d'un vent dans les collines, après que les cigales aient clamé la chaleur. Qu'elle soit collier de fleurs et gestes répétés, patience du glaneur, terre à moissonner. Que ses tendres racines parcourent l'infini comme un ruisseau palpite à l'ombre des galets. Qu'il n'y ait que ces mots versés sur le front chaud, perlant le long du nez, langue les récoltant au goût sucré d'alcool distillé en été. Que tout ne soit battant qu'à la joie de la vie soudain se découvrant. Que ma poésie seule escorte l'exilé, ne pèse jamais plus qu'un baluchon de rose, que pétales jonchés demeurent exception, sauf parfum embaumant l'intraitable beauté de regards pénétrants.
Il faudrait que nos cris.
Oui.
Oui.
Oui, oui, oui.
Il faudrait que nos cris déchirent les nuées. Dites-moi, comment faire? Nos voix sont affaiblies, des siècles de douleur ont achevé la peine. Il reste le noyau, incandescent, fortuit, tandis que l'élégie ne sert plus à la plainte, mais au chant de l'oubli. Nous sommes morts, n'est-ce pas, de ce désir d'aimer toujours inassouvi, qui nous laisse incurables, nos mains ne saisissant que l'ombre de nos vies. Il faudrait que le « oui » explose à nos oreilles. Dites-moi, comment faire? Nos corps sont amollis, des heures de désir insatisfaits nous noient, algues et varechs balancent sous des rideaux de pluie, nous sommes morts, n'est-ce pas, de ne savoir jouir qu'avec le désespoir, ignorant de la joie qui nous tenait bridée dans le goût de l'étreinte. Il faudrait que le nom nous exclue de la peur. Dites-moi, comment faire ? Nos âmes sont percluses de trop de souvenirs, de la curée de vivre à regarder souffrir, résignée, immobile et si vite harassée. Et puis en le danger familier à notre haine, les jambes entravées dans la course du temps, nous sommes morts, n'est-ce pas, d'avoir trop fréquenté le pied du mur suintant, nos rêves assommés par la nuit précontrainte, où gît la liberté coulée dans le béton de notre épuisement. Il faudrait que l'amour... Oh, l'amour, mon amour, dites-moi, comment faire ? Que l'homme apparaissant, ses espoirs scintillants aux rides auprès des yeux en grand ballot d'étoiles fagotés au levant, vienne enrouler nos corps. Nous sommes encore vivants, le feu couvant sous cendre, mais braise pour longtemps.
Tout à l'heure, nous parlions de la lucidité des poètes qui sont des êtres d'action. Et là, il y a un petit texte qui parle de la lucidité. Il s'agit bien de vivre, et je ne le peux pas. Je ne le voudrais pas si ce n'était que ça. Il s'agit bien de vivre, et je ne le veux pas. Je ne le pourrais pas si ce n'était que ça. Il s'agit bien d'aimer, et je ne le veux pas. Qui pourrait donc vouloir ? Qui pourrait donc pouvoir quand à ce point on voit ?
Peut-être on va lire Méditerranée. Et après, on continuera. La couleur de la mer nous était familière. L'air saturait nos sens d'une énergie de sterne volant vers le lointain. Nous voulions les nommer, le sel sur notre peau et l'ombre de l'antique, les grands mouvements d'hommes près des ports pour partir, et les dieux de l'Olympe, Cronos traquant Europe, aux dents ensemençant l'alphabet sur ses rives, Ulysse et les sirènes, Cadmos, les argonautes, le sage Pythagore assignant le savoir aux acousticiens. À extraire des nombres les racines du monde et s'aimer sans repos autour de son bassin, en hommage cosmique à ses rotondités, à ses angles, à ses creux, à ses cavernes obscures, à la ligne incurvée de son horizon bleu, aux harmoniques nées du ressac de ces vagues ainsi théorisées, à contempler la lune projetant sur les ondes l'hypoténuse offerte au droit de sa pensée, Thalès réinventait la Méditerranée. Mare Nostrum, la nôtre, et sa force sauvage, la pulpe de ses flots au sourire élargi, Mare Nostrum, la vie, un éclair de bonheur poignardant notre cœur au vibrato des vagues. Ô Méditerranée, bras ouverts de l'écume sur les roches rosées, et sa portance ferme où reposaient nos dos, assoupis par les eaux, nos lèvres salivantes des baisers de percée. La mer aux cinq syllabes qui draine nos désirs vers un mot qui se boucle, comme un anneau d'argent au doigt de la pensée. La mer aux cinq syllabes qui force le sourire quand on veut l'épeler. Inimitable mer, offerte aux poètes, tendant nos souvenirs sur la lyre d'Hermès volant vers Apollon. Grâce à lui, nous glissons, Thalaria à nos pieds, sur les ondes ailées. La Méditerranée au milieu double sexe, pour accueillir l'amour sans le différencier. Altérité, la fille de notre mère aimée, semblable et dissemblable. En elle s'affrontèrent toutes les ressemblances et en elle s'unirent toutes les différences. Son flot incestueux harmonisa nos rêves, la civilisation naquit en jaillissant. Tandis qu'un lendemain de linceul et de sang couvrirait ses varechs de trop d'âmes en partance jusqu'au jour d'espérance où nous nous rejoindrons.
Hosanna. Dans le cri du matin, la bouche s'agrandit. Un mouvement de creux qui remonte des ventres. Un sifflement de crainte dans le silence bleu. Un silence d'oiseaux déchus, de courte paille. Un chalumeau de blé toujours beaucoup trop long et le regard perclus de l'avoir constaté. Un sursaut hébété devant l'écoute du sort. Un bruit de solitude à ferraille entassée. Et ses mains allongées contre l'heure à venir, repoussant la fatigue et tentant d'effacer sur le visage clos les ruisseaux de la peine. Petite gouttelette où nage l'alevin des rêves endommagés. Image de nos vies encore minuscules et pourtant devenant la proie des carnassiers. Le rictus d'un sourire coupé de volonté. Alors que, simplement, quoi d'autre ? Enfin vivre. Vivre au germe du temps, dans l'éclosion du grain, à l'orée de la sève, au cœur des vocalises. Vivre in excelsis, éparpillés au vent, amarrés à la joie. Se ressentir vivant, fébrile. Inventé, épuré du langage des scories, les étés, épelé un seul mot, un seul, les yeux fermés, attendre d'être prêt, sur la pointe des pieds, se hisser doucement, le bras tendu vers l'est, vers le soleil levant, le corps épanoui et la pensée ôtée des alvéoles grises, un seul mot contre tous, car par lui engendré. Un mot imprononçable, toujours se dérobant aux significations. Le premier mot à dire au premier des instants. Et cette primauté marquante à jamais d'avoir été présente ou au contraire absente. Tout au bout de nos lèvres, posée comme une perle. Dans la pire des nuits, l'éclair de la colombe. Dans le plus dur des jours, le chahut d'un baiser. Oser à l'infini. La puissance d'un verbe, le verbe par essence. Amare, amare, privé de mère, de mœurs et sûrement de mort. Amare à la terre et créateur d'amour.
Pour faire une petite, un petit souffle dans cette lecture, je vous propose de lire un texte qu'a écrit Joan Jordà, puisqu'on en parlait, qui s'appelle « L'œil du masque », pour que vous entendiez la musique de ces mots et que vous mesuriez à quel point nous étions à l'amble, nous marchions à l'amble tous les deux. Peut-être vous n'en serez pas d'accord, mais je vous propose d'en juger. « L'œil du masque ». Il est là. Douloureux comme une plaie ouverte, ou doux comme la fleur abîmée par la pluie, ou rond comme la roue du temps qui creuse sur nos fronts d'insondables ornières, le cercle du soleil cent fois redessiné et jamais réussi, le cerceau de l'enfance, la meule des grisons qui émoussent nos rêves, des saisons, pardon, qui émoussent nos rêves. C'est le trou dans le bois, la tache sur la toile, mais toujours plus présent et plus vrai que l'œil du vrai regard qui se cache derrière. Très beau texte, je trouve. Il est assorti d'une photo d'un masque, il sculptait des masques que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pourriez imaginer, qui est un masque en liège, avec une tête très carrée en haut et le bas est pointu comme une pelle qu'on enfoncerait dans la terre, et deux yeux tout ronds au-dessus. C'est vraiment...
Il avait le sens de la formule aussi.
Oui, beaucoup.
Il disait que sa peinture ne pourrait jamais quand même... La peinture était toujours silencieuse et qu'elle pourrait quand même jamais rendre compte de la violence réelle du monde.
Ouais.
C'était terrible comme...
C'était terrible.
Oui, oui. Et... il faut signaler ce livre sur Joan Jordà qui a été fait il y a quelques années.
Et celui-ci.
Dans lequel... Non, pas celui-ci. Celui qui est avant.
Avant,
qui avait été,
oui.
Le gros livre
oui.
qu'avait fait, comment s'appelle-t-il déjà ?
Muriel Sirat, non ?
Muriel, voilà. Mm. Et pour lequel il y a des formules, justement, de Joan Jordà, comme ça, des formules lapidaires, qui sont assez percutantes.
Oui. Nous avons...
Voilà. Alors, il reste maintenant 10 minutes. Il faut penser aussi à annoncer les spectacles.
Oui.
Peut-être, pour ne pas l'oublier, je crois qu'on va commencer par ça et on finira par la lecture.
Oui.
Alors, Anne.
Oui. Oui, merci de me donner la parole parce que je. voilà, nous avons créé un spectacle avec la compagnie d'essence qui s'appelle Absence, qui va être donc produit les 21 et 22 mars 2023 au Théâtre du Pavé. C'est un spectacle danse, théâtre et vidéo, ou théâtre, danse et vidéo plutôt. Qui traite de la maladie d'Alzheimer, mais je rassure les auditeurs, ce n'est pas triste. Il y a de l'humour dans le texte, mais pas que, c'est aussi abordé avec la profondeur qui se doit par rapport à la maladie. C'est l'histoire d'une famille, il n'y a pas d'histoire chronologique linéaire, on va dire. Le texte que j'ai écrit ouvre des fenêtres sur le quotidien d'une famille. Pour donner un autre regard sur la maladie. Le spectacle passe entre passé et présent, rêve ou réalité, imaginaire ou souvenir. Et il est composé de 4 tableaux avec 17-18 scènes, je crois. Je n'ai plus fait le compte. Et il est interprété par 3 magnifiques interprètes qui sont Isabelle Sol, Adolfo Vargas et Nathalie Broisa. Voilà.
Au Théâtre du Pavé, donc.
Oui. Les 21 et 22 mars 2023.
Bien. Si tu veux bien, Amon, je suis un peu ému de ce que tu as dit, mais je crois que ça mériterait plus que quelques minutes, dont nous en reparlerons au mois de mars.
Hein. D'accord,
voilà,
avec plaisir.
Pour en parler d'une façon plus ample.
D'accord, avec grand plaisir. Merci.
Alors, on va finir sur un texte.
On va finir sur un texte. J'avais envie de sortir un peu du rail, du rail du livre. Un texte qui n'a strictement aucun rapport.
C'est un texte inédit.
Absolument inédit. Il était presque inédit pour moi-même, je ne me souvenais pas du tout avoir écrit ça, mais je trouve qu'il est très d'actualité. Il est sur le rôle des poètes et la condition de la femme. Et donc c'est un hommage à Sigi, alias Sigmund Freud, qui a en effet fait une injonction que je répète dans le texte et pour conclure. Donc le texte s'appelle « Adressez-vous au poète ». Adressez-vous au poète pour le continent noir, qui n'a de noir toujours que le regard perdu de l'homme vers la femme. Ainsi, il l'a nommé, celui qui fit renaître l'idée de l'inconscient, déjà si foisonnant dans les mythologies, quand la femme trouvait alors toute sa place. Adressez-vous au poète qui voit plus loin, hélas, que le jour où ils vivent et va se partageant sous leurs pieds écorchés. Au poète, étouffé de trop savoir en dire quand rien n'est écouté. Ou que, si dérangeant, surtout quand d'une femme, il vaut mieux censurer. Au poète, réfugié entre des mots bannis et des sons mélopés, Ô poète, rêvant d'un monde à la peine enfin se réparant de gestes simples et clairs et de bouches fécondes ou de vols d'étourneaux en syllabes chantant. Ô poète, qu'on dit ne jamais être lu alors qu'il vagabonde dans nos têtes d'enfants. Poète, qui savait le dérisoire au cœur, qui luttait dans l'obscur d'un cynisme étreignant toute l'humanité, souvenez-vous toujours qu'un père de la pensée, père du mot désir, de l'étant devenant, ne sut, désemparé, face au continent noir, que dire, sauf impérial et d'en être éclairé, ceci réparateur pour embrasser demain, au poète s'adresser.
Alors, nous rappelons, nous sommes entièrement d'accord, hein, on ne dira jamais assez de bien de la poésie, et donc la poésie que notre invité aujourd'hui utilise même comme méthode de management.
C'était une façon de rapprocher nos dirigeants.
Alors, ce tempo poème, c'est, il nous reste 3 minutes. 2 minutes, pardon. Tempo poème, donc c'est jeudi 26 janvier. Je dis ça pour les auditeurs qui nous écoutent en direct. Jeudi 26 janvier, à 18h30, à la maison de l'Occitanie, l'Oustal, 11 rue Malcosinat, près du métro, donc au métro Esquirol, près de la place Esquirol. Hein. Voilà, donc nous vous y attendons tout. Il y aura Yann, il y aura Anne Rebeschini.
Rebeschini.
J'y arrive. Et bien entendu, Béatrice Bouffil. Voilà, nous serons heureux de vous accueillir là. Comme il reste 2 minutes, on peut peut-être finir sur un petit texte.
Sur un petit texte. Alors, ben on va finir sur celui-ci.
Extrait de Obstiné à la vie, c'est ça?
Oui.
Obstiné à la vie, chassé du paradis, donc de Béatrice Bouffil avec des Joan Jourdain, des illustrations de Joan Jourdain, aux éditions de la Sibylle. C'est un livre qui vous coûtera 27 euros et 72 pages de grand plaisir.
Si c'est le cas, tant mieux. Je vous lis un texte toujours en hommage, si on peut dire, à la poésie. Il s'appelle « Rien ne résiste ». Parole poétique, puissance du faucon, ombrelle enluminée dans le désert saccage de mots abandonnés à de médiocres emplois. Poésie m'émerveille, quelque chose d'infime, d'étrangement distant, né de ce décalage de la raison à soi, du parcours singulier de l'âme en liberté. Ce brillant codicille à la venue au monde pénètre mes pensées, ouvre les cadenas, démonte l'intention, la plus tendre pourtant, de vouloir protéger, en laquelle se tiennent les rênes d'un cocher aux morses toujours blessants. Quelque chose d'intact dans mes formes de lutte, que je voudrais pouvoir à chacun adresser, est né en ce moment. Je suis venu au monde sur une vague rouge, et depuis, je ne cesse de vouloir y danser. Ce n'est pas plus pour moi que pour tenter de dire qu'au fond de tout malheur, de tant de nuits opaques, se pose avec langueur un soupir violoncelle, aux larmes avoisinantes mais au sourire clair. Que ce sourire, plein de mes syllabes fraîches, j'aimerais vous donner, vous dont le dos meurtri, appuyé sur la nuit, ne cesse de trembler. Poésie en partage, pour tous les morts vivants, pour ceux dont l'étincelle ne sait jamais briller, souffrant d'enfermement. Poésie, le cerceau poussé par un enfant contre les apories, et pour tous, le passage vers l'univocité, cette tendre lumière où filent les baisers.
Ainsi s'achèvent les poètes, tempo poème. Vous pouvez réécouter cette émission Tempo Poème Béatrice Bouffil sur lespoètes.site. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à l'ICR.